Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans ce temps pascal, les évangiles sont souvent tirés du discours de notre Seigneur après la scène, ce discours qui est le testament de notre Seigneur, le testament du cœur de notre Seigneur. Notre Seigneur y expose le mystère pascal, tout ce qui suit sa passion jusqu'à la Pentecôte. Et dans l'évangile de ce jour, notre Seigneur évoque le temps où les disciples le reverront après sa mort, c'est-à-dire le temps qui suit la résurrection, les 40 jours après Pâques. Mais pour nous, ce temps où nous devons le revoir, c'est le temps qui sépare l'ascension, son départ au ciel, de la parousie où il reviendra juger les vivants et les morts. Le monde impie ne l'a plus vu depuis le Vendredi Saint, mais nous, nous continuons à le voir, nous le revoyons chaque jour dans la Sainte Eucharistie, dans ce sacrement où nous entretenons avec lui, ce sacrement qui illumine notre vie et qui nous réjouit. Cette présence de notre Seigneur est une grande source de notre joie, la grande source de la joie chrétienne. Et cette joie habituelle du chrétien fait partie du patrimoine de l'Église. On peut le voir en comparaison de ce qui se passe dans les milieux non chrétiens. Monseigneur Lefebvre racontait comment il distinguait en Afrique les villages chrétiens des villages non chrétiens, en particulier par les visages. Comment les visages des chrétiens étaient paisibles, sereins, tandis que les visages des païens étaient tendus et tristes. Et de même, des missionnaires ou bien des personnes qui ont pu aller en Inde aujourd'hui nous disent qu'on les a mis en garde. Attention, ne souriez pas. Parce que si vous souriez à quelqu'un, il va penser que vous mijotez un mauvais coup, que vous lui voulez du mal. Au contraire, dans la chrétienté, dans ce qu'était la chrétienté, on remarque la joie douce des saints. Elle transparaît sur les statues de nos cathédrales, ces visages aussi sereins, ces visages joyeux, et c'est très éloquent. Essayons avec saint Thomas d'expliquer alors la nature de cette joie proprement chrétienne qui fait un des charmes de la société chrétienne. D'où vient cette authentique joie chrétienne? D'abord, revenons sur la joie en général, cette passion de l'âme, qui, nous dit saint Thomas, est causée par la possession ou la présence d'un certain bien. C'est une passion où l'on se repose en un bien, comme de même que dans la passion inverse, la tristesse, c'est la passion qui résulte de la présence d'un mal, d'une façon permanente, un mal qui est arrivé. Donc cette passion de joie provoque dans l'appétit sensitif une détente, un bonheur. Quand le soleil brille, quand on a pris un bon repas, quand on est en bonne santé, l'appétit sensitif éprouve cette joie, la passion de repos dans un certain bien. Mais comme l'homme est aussi spirituel, cette joie dans l'appétit sensitif est liée à l'esprit d'une façon beaucoup plus élevée. L'homme éprouve la joie dans la présence d'un bien plus élevé, d'un bien spirituel, dans la connaissance, par exemple, de la vérité, ou également dans l'amour de bienveillance, dans l'amour désintéressé. La joie est causée par la présence du bien de la personne aimée, et même si la personne est absente. C'est évidemment une joie beaucoup plus élevée. Notre Seigneur nous en donne un exemple dans l'Évangile aujourd'hui. Il parle de la femme qui a enfanté. Bien qu'elle ait souffert et bien qu'elle ne soit pas encore tout à fait remise, de l'accouchement, elle éprouve la joie parce qu'un enfant, un homme est venu au monde. C'est la joie aussi de donner sa vie pour sauver son ami. C'est la joie de notre Seigneur sur la croix. Et pourtant, dans cette joie, on perd un bien extrêmement précieux qui est la vie propre, mais pourtant, on arrive à éprouver cette joie à cause de cet amour de bienveillance désintéressée. Parce que, nous explique saint Thomas, dans l'amitié, le bien de l'ami est réputé le nôtre. Il est identifié avec notre propre bien. Maintenant, cette passion simplement naturelle, faisons-en l'application à la vie chrétienne. La vraie joie chrétienne, celle qui est propre au christianisme donc, doit se prendre par rapport au bien suprême qu'est Dieu. Et elle comporte deux degrés. La première est la joie de posséder Dieu, d'être toujours avec lui, de l'avoir à côté de nous. Et une joie, la joie suprême, la joie la plus parfaite, c'est la joie de la plénitude de Dieu, de la félicité de Dieu. C'est le degré le plus haut de la joie chrétienne. Commençons par la première, la joie du chrétien de posséder Dieu. Cette joie est causée par la vertu de charité, puisque la vertu de charité rend Dieu présent en nous, comme l'explique saint Jean. Celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu et Dieu en lui. En effet, la vertu de charité est causée par la grâce, est causée même par l'Esprit Saint qui, nous dit saint Paul, nous est donné. Ainsi, quand nous exerçons la charité, quand elle est présente dans notre âme, c'est bien parce que Dieu est en nous, parce que le Saint-Esprit est survenu en nous et qu'il produit en nous cette participation à l'amour que Dieu lui-même a de lui-même. Il n'y a donc pas de plus grand trésor pour un homme, pour un chrétien, que d'aimer Dieu réellement tel qu'il s'aime lui-même, par l'action de Dieu en lui. Cette charité qui nous donne la joie étant aussi un des fruits de la charité, cette charité est un avant-goût du ciel. Il y a une autre vertu théologale qui intervient dans ce premier degré de la joie chrétienne, une vertu qui est propre à l'état de voie, qui disparaît au ciel, c'est l'espérance. L'espérance intervient également pour nous réjouir, car l'espérance nous donne une grande fermeté dans la certitude de posséder Dieu pleinement au ciel. Nous le possédons déjà ici par la grâce, mais nous le posséderons pleinement au ciel, et l'espérance nous en assure. Nous savons que cette possession est certaine au moins du côté de Dieu, même si de notre part nous pourrions mettre des obstacles et ne pas atteindre le ciel. Mais cette vertu d'espérance est si ferme que c'est presque une possession anticipée. On pourrait comparer cette certitude de posséder Dieu éternellement et infiniment au ciel à la certitude du fils du roi, de l'héritier, de monter sur le trône et de recevoir la couronne. Rien ne peut l'empêcher, sinon sa propre mort ou bien une révolution. Mais en soi, cette certitude est là. Ce premier degré de la joie chrétienne est, nous dit saint Thomas, tout de même mêlé de tristesse. Car nous ne possédons pas encore dans l'état de voie, nous ne possédons pas encore Dieu parfaitement. Ou bien parce que notre prochain, que nous aimons d'amitié, ne le possède pas. Donc la tristesse vient premièrement du risque de perdre Dieu. Deuxièmement, des peines de cette vie, qui sont bien réelles. Et puis enfin, de ce que la foi étant une connaissance imparfaite, cette possession de Dieu n'est pas éprouvée parfaitement. Et c'est ainsi que les saints les plus joyeux pouvaient s'affliger, comme notre Père Saint-Dominique, qui s'affligeait des maux du prochain, qui s'affligeait de la perte des âmes, comme sainte Catherine de Sienne, qui s'affligeait de sa tiédeur, ce qu'elle appelait sa tiédeur passée. Nous pouvons donc, ici-bas, malgré cette joie essentielle et habituelle de la vie chrétienne, éprouver des tristesses. D'autre part, ce premier degré de joie chrétienne est imparfait parce que la joie n'est pas complète. Nous désirons toujours participer davantage à la vie de Dieu, au bien de Dieu. Nous désirons toujours grandir dans la charité. Dans ce sens, nous répétons avec sainte Thérèse d'Avila ses aspirations « Je veux voir Dieu ». Et c'est ce qui rend ce premier degré de joie imparfait. Au contraire, la joie du ciel, elle, sera parfaite. Saint Thomas dit « La joie des bienheureux est parfaitement pleine et même plus que pleine, débordante, super pleine », il dit. Parce que alors, nos désirs seront comblés. Comme dit le psaume 102, « Qui replet in bonis desiderium tuum »« Il comble de bien tes désirs ». Et même, saint Paul nous dit que nous obtiendrons davantage que nous ne pouvions désirer. L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, elles ne sont pas montées au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Et voici ce qui devrait nous fortifier dans les épreuves, dans les dégoûts de cette vie. Cette espérance, cette certitude de la possession parfaite de Dieu et de la joie parfaite au ciel. Si nous pouvions avoir cette foi vive, qui fixe nos yeux dans le ciel, si nous pouvions avoir cette espérance ardente, vivante, sans nul doute, nous serions bien plus généreux dans la traversée du désert. Comme Moïse, qui, nous dit saint Paul, lorsqu'il quitta l'Égypte pour fuir la colère du Pharaon, il tint ferme comme s'il voyait celui qui est invisible. Si nous examinons maintenant la deuxième espèce de joie chrétienne, la plus pure, la plus élevée, celle de la certitude que Dieu, lui, possède la béatitude, qu'il se possède lui-même, c'est une joie encore bien plus authentiquement chrétienne, beaucoup plus intéressée, alors nous comprenons mieux la parole de notre Seigneur à ses apôtres dans l'évangile de ce jour. Votre cœur se réjouira et votre joie, nul ne pourra vous la ravir. C'est la joie des vrais amis. Cette joie-là n'est point mêlée de tristesse, parce que la béatitude de Dieu ne comporte aucune imperfection, elle est infinie, éternelle, parfaitement stable. Et c'est en ce sens que saint Paul nous invite à nous réjouir, gaudete in domino semper. Se réjouir dans le Seigneur toujours. Là, oui, c'est possible. Il n'y a pas de tristesse. Et c'est la joie aussi des martyrs. Le martyr témoigne de la plus grande charité qui soit, puisqu'il renonce au plus grand bien pour Dieu. Et ainsi, dans l'acte de son martyr, son amour parfaitement désintéressé éprouve ce second degré de la joie chrétienne. Ainsi, les Christéros qui criaient en mourant « Vive le Christ roi !» Ils se réjouissaient de cette vie éternelle, de cette joie éternelle du Christ roi. Ainsi, Garcia Moreno qui dit « Dieu ne meurt pas !» Et c'était sa joie. Si la charité habite en nous, si nous vivons avec Dieu en notre âme, vraiment comme avec un ami, rien ne peut nous ôter la joie de savoir la plénitude de Dieu. Cette joie délicate suppose l'humilité, détachement de nos intérêts, la pureté du cœur. Ainsi, comme dit Éloi Leclerc, le cœur pur est capable, au milieu de toutes les misères, de vibrer à l'éternelle innocence, à l'éternelle joie de Dieu. Un tel cœur est à la fois dépouillé et comblé, il lui suffit que Dieu soit. En cela même, il trouve sa paix, tout son plaisir. Eh bien, nous jouirons encore bien davantage de cette plénitude de Dieu lorsque nous le verrons face à face. Cependant, nous explique encore saint Thomas, Comme aucune créature n'est capable d'une joie de Dieu qui soit digne de lui, parce qu'aucune toute créature est finie, mais n'est pas capable de se réjouir infiniment comme Dieu est joyeux infiniment. Il s'ensuit que cette joie pleine ne sera pas reçue en nous, mais que c'est nous qui entrerons en elle et nous nous y trouverons plongés. C'est pour cela que dans la parabole, notre Seigneur dit au bon serviteur fidèle, « Entre dans la joie de ton maître ». Alors, soyons chrétiens, ne nous laissons pas attristés par le secondaire, par ce qui est passager. Soyons joyeux de posséder Dieu. Soyons joyeux surtout de la joie, du bonheur de Dieu, qui est le plus important dans l'univers. Ne nous laissons pas détourner par les informations, par les soucis réels de cette vie. C'est certes la traversée du désert, mais avec les yeux fixés sur la patrie, la terre promise où coule le lait et le miel nous est assurée pour très bientôt, et Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Et cette joie, nul ne peut nous la ravir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.